J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que Dieu était avec vous comme il a été avec moi. Donc j'espère que pour vous ça a été. Est-ce que ça a été? Qui croit que Dieu a été avec lui durant la semaine? Bon, ok. Il y a des mains qui ne sont pas levées, donc vous étiez tout seul. Le Seigneur n'était pas avec vous. Alors moi, cette semaine, j'étais à Nantes. J'étais d'abord à Gravelines pour une formation dans le cadre professionnel. Après, je suis allé à Nantes. J'étais à Gravelines de lundi à mercredi. Et puis après, je suis allé à Nantes jeudi. Et je suis rentré vendredi. Et malheureusement, comme c'est les grèves en ce moment, ben, je suis obligé de faire les trajets en voiture. Et la semaine d'avant, j'étais à Lyon. En voiture encore, parce qu'il y a les grèves. Donc je vais à Lyon le matin, dimanche, plutôt lundi matin, et puis je reviens le vendredi. Tout ça en voiture, donc je fais 7 heures de route. C'est pas évident, je commence à avoir un peu mal au dos. J'ai vu le médecin justement à Nantes, parce que je suis allé pour une visite médicale pour l'entreprise. Et puis je lui ai dit que je prends le dos, il m'a dit non, c'est certainement les trajets, donc il faut marcher un peu, faire un peu de sport. J'ai dit ok, le ventre va partir, donc c'est bon. Faire le sport, ça va aller. Et quand j'étais en train de faire mon chemin retour sur Nantes, Dieu m'a fait grâce, il n'y avait pas d'embouteillage. Et puis je suis arrivé au niveau du péage pour rentrer à Paris, puisque pour venir à Lille, le GPS m'a fait passer un peu près de Paris. Et puis après, je devais descendre sur l'île, ou plutôt remonter sur l'île. Et quand je suis arrivé, je me suis arrêté là, j'ai mangé un peu, j'ai appelé mon épouse pour dire « tout va bien, t'inquiète, ça roule ». Je serai là d'ici 2 heures, parce que là, je suis vers Paris, donc d'ici 2h15, 2h30, je suis à la maison. Et puis, quand je reprends après le péage, j'avance donc vers Paris, je vois direction Lille. Je dis, bon, super, je prends ma direction Lille. Mais pendant que je suis en train d'avancer pour prendre direction Lille, le GPS me dit, sorti dans 1 kilomètre. Je dis, comment ça, sorti dans 1 kilomètre? Lille, c'est par ici. Moi, je ne suis pas sorti dans 1 kilomètre. Et je regarde les plans cartes d'autoroute. Sorti 1 kilomètre, c'était vers direction Rouen. J'ai dit, mais non, moi je vais à Lille. Pourquoi tu reviens à Rouen? Mais il a ici sorti 1 kilomètre. Oh, je change le GPS, je remets bien le domicile de chez moi. Il me met toujours sorti Rouen. J'ai dit, ah là, moi je ne vais pas là-bas. Je pars direction Lille. Donc je fonce direction Lille. J'avance. Je vais se mettre encore prochaine sortie. Mais il faut qu'on sorte. Non, Lille, c'est par là-bas. Je continue. J'avance. Et je rentre dans Paris. Quand je vais à Paris, embouteillage. J'ai passé 1 heure dans les embouteillages à Paris. J'appelle ma femme. Je lui dis, bah, écoute, je t'avais dit que j'arrive dans 2h30, mais finalement, ça peut-être 3h, 3h30. Et pendant que je rentrais dans Paris, j'ai vu direction Lille. Non, je continue à suivre direction Lille. À chaque fois, je ne sais pas ce que je faisais, encore sortir. Donc, je commençais à réfléchir. Je me dis, ah, ce gars-là, c'est peut-être ce qu'il fait. Peut-être qu'il veut me faire prendre une route qui m'évitera les embouteillages. Donc, j'ai commencé à suivre le GPS. Et quand j'ai commencé à suivre le GPS, m'a fait rentrer vraiment dans Paris. Je ne suivais plus l'autoroute. Je suis rentré dans Paris, j'ai pris des petites routes et puis je suis ressorti par devant. Donc finalement, j'ai pu éviter l'embouteillage et j'ai repris la direction Lille un peu plus loin. Et le Seigneur m'a parlé à ce moment-là. Et il m'a dit, tu vois, dans la vie, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on dit on marche par l'esprit, on dit voilà, on est des hommes spirituels. Mais en fait, parfois, le Saint-Esprit nous parle. Mais nous regardons à ce que nous connaissons, à ce que nous savons, et nous raisonnons. Et nous disons, non, mais Seigneur, moi, c'est ce que je veux faire. Voilà la direction où je veux aller. Je te dis, non, passe par là. Je dis, mais Seigneur, je ne vois pas la destination. Je ne vois pas l'île sur les panneaux, je vois Rouen. Tu m'as mené où? Moi, je vais à Lille. Mais Dieu te dit non, passe par moi. Il sait pourquoi il te fait passer par moi. Mais la destination restera la même. Mais le chemin ne sera pas le même. Mais pour toi, comme tu vois déjà le panneau Lille, tu dis, mais non, Moi, je vais à Lille, donc je suis la direction Lille. Dieu te dit, je sais que tu vas aller à Lille. On est d'accord, toi, moi, il n'y a pas de problème. Mais je te dis, va au roi. Il ne te dit pas pourquoi tu vas prendre roi. Il ne te dit pas que devant il y a embouteillage. Il ne te dit pas que devant il y a un souci. Mais il te dit quand même, va au roi. Prends cette route. Mais comme tu es cartésien, comme dire Alexis, tu te dis, non, bah, je vois l'île, je vais suivre l'île. Et on se retrouve souvent dans un problème, ce que nos propres pensées, nos propres raisonnements, nos propres manières de voir les choses, nos habitudes, parfois même notre éducation, prennent le pas sur la foi. Et au final, nous ne marchons vraiment plus par la foi. Nous finissons à marcher par les habitudes, par les conseils, par ce qu'on sait ou qu'on croit savoir. Alors qu'au final, Dieu nous appelle en tant que fils de Dieu à marcher par les choses invisibles, les choses qu'on ne voit pas. Mais comme on croit, nous croyons que nous avons reçu le Saint-Esprit, alors nous suivons la voie de cet Esprit-là. Mais malheureusement, pour nous, ce n'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, je veux parler sur entrer dans les nouvelles choses. Depuis le début de l'année, et même un peu, je crois, en fin d'année dernière, on a commencé à parler de nouvelles choses. Mais en fait, tu ne peux pas rentrer dans les nouvelles choses si dans ta tête, ça n'a pas changé. Si ta manière de penser n'a pas changé. Ta manière de réfléchir n'a pas changé. Ta manière de considérer les choses n'a pas changé. Tu ne pourras pas rentrer dans les nouvelles choses. Je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, on est tous là, rassemblés. Et puis, quand il y a des chants, on chante, c'est bien. Et puis, quand on est prié, on prie, on lève les mains. Certains parlent en langue. Et puis, on est là. Imaginez que quelqu'un, un païen, qui ne connaît vraiment pas Dieu, rentre ici. Comment va-t-il nous regarder ou nous considérer? Il peut penser qu'on est fou. Puisque nous parlons à quelqu'un que nous ne voyons pas. Parfois même chez toi, tu pries, tu pleures, Seigneur, mais quelqu'un rentre dans ta chambre, tu dis, mais qu'est-ce que tu fais? Tu parles à qui? Êtes-vous deux? Elle est où cette seconde personne à qui tu parles? Tu t'adresses à qui? La foi, bien-aimé, est une folie. La Bible le dit clairement. La foi est une folie. Ce que nous vivons en tant qu'enfants de Dieu n'est pas compréhensible pour certains. N'est pas même envisageable pour d'autres. On a traité les hommes, et on verra, j'ai plein de versets, mais pour l'instant, je ne regarde pas ces versets-là. Je vous dis ce qui me vient d'abord à l'esprit. On a traité les enfants de Dieu de fous. On a traité Noé de fou. Il construit une arche, il ne peut pas, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il fait? Mais Noé avait entendu la voix de Dieu. Il a eu confiance en Dieu. Il a eu foi en Dieu. Il a construit l'arche. Et on sait ce qui s'est passé, ceux connaissent l'histoire. Dieu a fermé la porte de l'arche. Il a dit, maintenant le temps est venu de faire pleuvoir. Mais il n'y avait pas de pluie. Le ciel même n'annonçait pas de pluie. Mais Dieu, sachant ce qu'il faisait et ce qu'il allait faire, a dit à Noé, construis l'arche. Mais Noé, s'il n'avait pas la foi, allait dire, mais c'est de la folie. Pourquoi je vais à Rouen? Pourquoi je construis une arche? Il n'y a rien. Il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de problème. Pourquoi construire une arche? Il en est de même. Pour notre ami Abraham, vous savez qu'à l'époque, on disait souvent que, et même ça existe encore peut-être dans certaines tribus ou coutumes, traditions, on tuait des enfants, des hommes, on les donnait en sacrifice à des dieux. Donc Dieu parle à Abraham, il lui dit de donner son fils. Mon fils, Dieu que je connais ne peut pas tuer un enfant. Dieu que je connais ne peut pas me demander de donner mon fils, ça n'est pas possible. Dieu que je connais, en fait tu ne le connais pas. Abraham ne le connaissait pas encore. Mais ce jour-là, il l'a connu. Il a dit, le Dieu que je connais, j'obéirai à sa voix, quelle que soit la folie qu'il me demandera de faire. Est-ce que vous imaginez le voisinage d'Abraham? Peut-être ses cousins, sa famille, les gens qui étaient avec lui, ses serviteurs. Mais que fait-il, Abraham? Le fils pour lequel il a prié, le fils pour lequel Dieu a mis des promesses. Voilà qu'Abraham, un matin, se lève et il va aller mettre son fils en sacrifice sur l'autel. Tuer, c'est pas sacrifice de, non, c'est sacrifice de lui ôter la vie. Est-ce qu'on s'imagine le voisinage d'Abraham? Abraham était fou. Il n'est pas possible que Dieu lui demande de tuer son fils. Mais que dit Dieu à ce moment-là, Abraham? Avant qu'Abraham ne fasse finir le couteau sur son fils, puisque Abraham est allé jusqu'au bout du bout. Il n'est pas arrivé et dit, « Bon, Seigneur, maintenant fais quelque chose. Hein. Je sais que c'est juste un test, donc maintenant tu peux agir. » Non! Abraham, la Bible déclare que Abraham croyait en ce Dieu qui est même capable de ressusciter les morts. Ça veut dire qu'il est allé au bout du bout. Il a pris le couteau. C'est pas dit, « Bon, Seigneur, je crois en toi, je suis arrivé au bout du bout, mais non, dis-moi que c'est bon là. » Non, Abraham était prêt à prendre le couteau et à tuer son fils. Par la foi. Était-ce la foi? Était-ce de la folie? Par la foi. Parce que la foi est une folie. Par la foi. Et là, Dieu lui dit, maintenant je sais qu'Abraham me craint. Maintenant, je sais qu'Abraham m'aime. Maintenant, je sais qu'Abraham croit en moi. Maintenant, je sais qu'Abraham a la foi. Bien-aimé, dans ma propre vie, j'ai beaucoup tourné en rond. Et souvent, je disais au Seigneur, « Seigneur, parle-moi. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, quelle direction je veux prendre? Seigneur, Seigneur, Seigneur. » Et Dieu me disait à certains moments, « Mais Wilfried, je t'ai déjà parlé. Je t'ai déjà dit ce que tu dois faire. » Et souvent, Dieu nous parle, mais on n'écoute pas. Dieu nous parle, mais on n'y prend pas en garde. Et on reste toujours en train de prier, à nous lamenter des heures et des heures, des jours et des jours. Mais le Seigneur a déjà libéré sa parole. Elle est venue à notre esprit. On l'a connue. Je n'ai pas d'expérience. On l'a connue. Mais simplement parce qu'on n'y a pas cru. On s'est dit, non, ce n'est pas Dieu. Non, non. Et au final, on est resté dans la prière. Mais Dieu est tellement bon qu'il revient te dire, mais mon fils, arrête de pleurer. Arrête de rester à genoux. Je t'ai déjà répondu. Pas forcément de la manière dont tu t'attendais, mais il t'a déjà répondu. Il t'a déjà dit ce que tu vas faire. Il t'a déjà donné une direction. Et il y a des prières qui sont récurrentes comme ça, alors qu'en fait, nous avons déjà les solutions. Parce que si nous croyons que Dieu est notre Père, si nous croyons que Dieu nous aime, si nous croyons que Dieu est bon, si nous croyons à la parole de Dieu qui dit « Invoque-moi et je te répondrai », on ne peut pas croire que nous avons prié des heures et des heures, des jours et des jours, et que Dieu ne nous ait pas répondu. La Bible déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il est là. Donc, si Dieu dit, invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas, les choses que tu cherches, tes questions, je te répondrai. Et si nous croyons qu'il n'est pas un homme pour mentir, donc je peux dire avec assurance que Dieu m'a répondu. Mais où est sa réponse? Il me l'a dit, mais je ne l'ai pas écouté. Où j'ai écouté, c'est rentré et c'est ressorti. Je ne me suis pas assis pour dire, Seigneur, j'ai entendu ta parole, je vais obéir. Vous savez, on a dans la Bible des exemples de désobéissance. Hein? Vous connaissez celui qui était dans le poisson? Comment il s'appelle? Exemple de désobéissance. Il a entendu la voix de Dieu, mais il a dit non. Bon, je ferai autre chose. Ce n'est pas que Dieu ne lui a pas parlé. Il était même conscient de la voix de Dieu. Mais il a décidé de faire autre chose. Mais parfois, nous nous restons dans nos propres problèmes, nos propres difficultés, alors que le Seigneur, dans sa fidélité, nous a déjà répondu. Vraiment, la pensée que le Seigneur m'a mise à cœur, c'est de changer nos mentalités, changer nos manières de penser, changer nos manières de réfléchir et d'agir avec foi. On n'a pas la foi. C'est dur ce que je dis, mais on n'a pas la foi. En tout cas, moi, je me rends compte que, Seigneur, parfois, je n'ai pas de foi. Tu me dis de faire des choses, j'hésite, je réfléchis, est-ce que c'est vraiment Dieu, je prie encore. Ah, petit, tu fais quoi? Je t'ai déjà parlé. Lève-toi, agis. Mais tu tournes en rond, tu cherches. La solution, elle est là devant toi. J'espère que je parle à quelqu'un ce matin. N'use pas d'incrédulité. Que ton cœur ne soit pas dur. N'use pas des raisonnements. Ne réfléchis pas trop avec Dieu. Crois seulement. Crois seulement. Quel que soit ton problème, je t'assure que Dieu t'a déjà répondu. Ce matin, quels que soient les problèmes qui sont dans vos cœurs, je peux vous assurer que Dieu vous a déjà donné une solution. Mettez-vous attentif. Étais-je attentif?
Alors, on va prendre Jean chapitre 3, le verset 1 au verset 8. Merci Seigneur. Alors, on va lire la parole de Dieu. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, et ce qui est né de l'esprit, est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Amen. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Ça veut dire que si tu penses, et il y a si tu penses, après il y a si tu crois. D'accord? Si tu penses ou si tu crois que tu as reçu le Saint-Esprit, si tu penses que tu as reçu le Saint-Esprit, on dit que personne ne peut voir le royaume de Dieu, donc connaître la volonté de Dieu s'il ne naît de l'Esprit. Si tu es né de l'esprit, c'est que Dieu t'a fait connaître sa volonté. Ça, c'est un. Deux, si tu es né de l'esprit, le vent souffle, on entend le bruit, mais on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Il en est de même de ceux qui sont nés de l'Esprit. Ça veut dire que, en vérité, toi, quand tu prends la route pour aller à Lille, tu ne sais pas où tu vas. Dieu va te dire les routes qu'il faut prendre. Mais toi, tu calcules ton chemin. Tu dois passer par ici. Mais en fait, tu ne sais pas quelle est la bonne route. Il n'y a que Dieu qui sait où tu viens et où tu vas. Et quel chemin tu vas prendre. Il n'y a que le Seigneur qui sait. Mais nos raisonnements nous font croire que nous connaissons et que nous savons. Que ce soit l'éducation, je veux même aller plus loin. Que ce soit même ce qu'on nous enseigne. Parce que vous savez, l'Esprit parle. Et parfois, il va te dire autre chose que ce que tu croyais avoir compris dans sa parole. Pourquoi il y a les serviteurs de Dieu qui te disent que pendant les années, il a prêché sur tel... Le même thème, hein? Il a prêché sur ça durant les années. Et puis un jour, il te dit, non, j'ai eu une révélation. Il change la manière de prêcher sur les mêmes versets. Parce que Dieu renouvelle même la connaissance de sa parole. Et il t'amène de plus en plus loin sur la compréhension des Écritures. Il y a des choses que tu peux comprendre aujourd'hui, c'est une dimension de la compréhension de ton état. Demain, tu vas les comprendre différemment. Et ce sera pour toi une révélation, un rhéma. Parce qu'en vérité, tu ne sais rien. Si tu penses que tu es né de l'Esprit, tu ne sais pas où tu vas. Fais confiance à celui qui te conduit. S'il te parle, obéis. S'il te donne une solution, mets-la en pratique, parce qu'il sait où il t'emmène. Mais pour ça, il faut que tu penses, que tu crois, que tu es né de l'Esprit. Et que tu ne t'appartiens plus à toi-même. Bah, celui qui a mis son esprit en toi et qui sait où il t'emmène et dans quelle direction il va te faire passer. Quel que soit ton projet, quels que soient tes plans, Dieu connaît ses propres plans pour ta vie. Et ce sont ces plans-là qui doivent s'accomplir. Alors si tu es né de l'esprit, attache-toi à l'esprit. Parce que c'est lui qui sait où il t'emmène. Attache-toi à la révélation de l'Esprit. Ouvre ton oreille. Quand tu pries, ne te mets pas à genoux, tu dis ce que tu as à dire, tu te lèves et tu t'en vas. Que t'a dit le Seigneur? Que t'a dit l'Esprit? T'a-t-il parlé? T'a-t-il dit quelque chose? Ou c'est toi qui lui as parlé en lui donnant des ordres et des directions? Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Merci, au revoir. Je vous parle, mais je me parle. Vous comprenez? Le Saint-Esprit est là pour nous conduire, et non pas nous pour le conduire. C'est lui qui nous conduit. Alors on vient faire connaître, comme la Bible déclare, nos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Mais nous restons dans la présence de Dieu pour écouter. Seigneur, j'ai besoin de ceci ou de cela. Qu'en penses-tu? Que dis-tu, Père? J'écoute la voix de Dieu qui me parle. Et si, pendant que j'étais en prière, je n'ai rien entendu, quand je me lève, je reste attentif. Dieu peut me parler les 5 minutes qui vont suivre. Dieu peut me parler l'heure qui va suivre. Dieu peut me parler le jour qui va suivre. Je reste attentif. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Ne pensons pas que Dieu ne nous répond pas. Non. Bien-aimés, non. Effaçons ça de notre esprit. Que le Seigneur ne m'a pas répondu, j'ai prié non. Moi, j'ai dit non. Sinon, Dieu est un menteur. Or, la Bible déclare qu'il n'est pas un menteur. Si Dieu dit qu'il nous répond, c'est qu'il nous répond. Je vous choque ce matin. Corinthiens 1, de 18 à 31. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'en anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'est-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. De Corinthiens 3, 18 à 20. Ah, c'est bon, on continue. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. La foi est une folie. La vie chrétienne en elle-même est une folie. Et quand tu dis que tu as la foi, c'est que tu es fou. Tu suis qui? Il est où? Qui te parle? Tu es fou. Je vous choque. Nous sommes des fous. Enfin, toi, moi, je suis fou. Je suis fou pour Dieu. Alléluia. Je suis fou. Je suis fou pour le Seigneur. Paul était dit qu'il était fou, hein. Vous savez ça? Je ne vais pas vous lire les versets. Paul est un fou. Lorsqu'il est devant les Sanhédrins, lorsqu'il est allé, lorsqu'on l'a condamné à Rome, quand il a commencé à parler de résurrection, il a dit, tais-toi, tu es fou. On lui a dit que ton intelligence te rend fou. Ton excès de connaissance te rend fou. 2 Corinthiens 3, 18 à 20. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est ça? 2 Corinthiens 3, 18 à 20. Il n'y a pas 18 à 20? Ok, même en celui-là alors, 19 à 20. D'accord, bon, j'ai dû me tromper de verset. Même alors, 1 Corinthiens 3, 18 à 20. Voilà, c'était celui-là, merci. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou. Afin de devenir sage. Alors moi, je suis fou parce que je veux être sage. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, c'est-à-dire il sait ce qu'il fait, Voilà, il cherche ses projets, il commence à réfléchir, à calculer, à se dire, bon, moi, je veux faire ça, Seigneur, merci, voilà les projets de ma vie. Qu'il devienne fou. Ainsi que Dieu lui, enfin que Dieu lui donne sa sagesse. Et qu'il sache vraiment quelle est la volonté de Dieu pour lui. Il faut être capable de dire au Seigneur, Seigneur, je ne sais rien. Je ne sais même pas où je vais. Je ne sais même pas ce que je fais. Révèle-toi à moi, Seigneur. Révèle-toi à moi. Il faut savoir être vide pour être rempli. Si tu es toujours plein de tes propres projets, Dieu ne peut pas te remplir de ses projets à lui. Il faut savoir être vide pour être rempli. Il faut savoir être nu pour être vêtu. Sachons que Dieu attend de nous que nous changeons notre manière de penser, de réfléchir et de nous approcher de lui. Est-ce que quelqu'un veut devenir fou ce matin pour Dieu? La prédication de la parole est une folie et je le constate. Amen. L'objectif ce matin est de vous encourager à vous laisser vraiment conduire par le Saint-Esprit. De briser nos barrières et nos réflexions. De briser. Vous voyez, dans le monde, on dit change your mindset. Hein? C'est ça, ma grand-mère. Change your mindset. Mais ils ont pris ça où? Dans la parole. Romains 12 dit quoi? Verset 1. Renouvellement de l'intelligence. C'est change your mindset, c'est tout. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Changeons notre manière de penser et de réfléchir. Notre approche de Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Et quand on se plaint que Dieu ne nous a pas répondu, il est triste. Et quand on se plaint que Dieu ne s'occupe pas de nous, il est triste. Et quand on se plaint que Dieu ne nous parle pas, il est triste. Et je suis le premier à qui le Seigneur fait ce reproche. Que tu ne m'écoutes pas assez. On lira ce verset plus tard, mais que dit Job 33? On peut même le mettre maintenant, merci. Job 33, verset 1 à 3. Job 33, je l'avais donné, je pense. Alors, pour faire une petite histoire sur Job, donc, on connaît, Job est tombé malade, serviteur de Dieu, il a perdu tout. Et puis, il y a trois de ses amis qui viennent lui parler. Il lui parle au conseil, Job se défend. Et il y a un quatrième qui arrive. Un quatrième. C'est lui qui parle ici. Et juste pour aller plus loin, après Dieu justifie Job et condamne les trois autres. Mais il ne condamne pas ce quatrième qui va parler. D'accord? Alors, il est écrit, « Maintenant donc, Job, écoute mes discours, prête l'oreille à toutes mes paroles. Voici, j'ouvre la bouche, ma langue se remue dans mon palais. C'est avec droiture de cœur que je vais parler. C'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres. » Continuons. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Si tu le peux, réponds-moi, défends ta cause, tiens-toi prêt. Devant Dieu, je suis ton semblable. J'ai été comme toi, formé de la boue. Ainsi, mes terreurs ne te troubleront pas. Et mon poids ne saurait t'accabler. Mais tu as dit à mes oreilles, et j'ai entendu le son de tes paroles. Je suis pur, je suis sans péché, je suis net, il n'y a point en moi d'iniquité. Et Dieu trouve contre moi des motifs de haine. Il me traite comme son ennemi. Il met mes pieds dans les ceps et surveille tous mes mouvements. Je te reprendrai quand cela, tu n'as pas raison. Car Dieu est plus grand que l'homme. On va jusqu'à la fin du chapitre 33. Veux-tu donc disputer avec lui? Parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes. Je peux aller plus vite, si c'est possible. Merci. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Vous voyez comment Dieu est bon? Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les mille qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé quoi? Une rançon. Jésus-Christ, notre Seigneur, notre rançon. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait. Deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, dix fois avec l'homme. Dieu parle aux hommes pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Sois attentif, Job. Écoute-moi. Tais-toi et je parlerai. C'est bon, merci. Soyons attentifs à Dieu. Le Seigneur nous parle à chaque fois d'une manière ou d'une autre. De plusieurs manières, par des songes, par la parole de Dieu, par les prédications, par quelqu'un qui nous donne un conseil. Dieu nous parle toujours, toujours. Je vais le répéter ce matin, Dieu t'a déjà parlé. Quel que soit ton problème, je te l'atteste, Dieu t'a déjà parlé. Rentre en toi-même et réfléchis. Dieu t'a déjà parlé. Ce matin, le Seigneur veut que tu sois attentif. Sois attentif quand tu pries, sois attentif. Quand tu attends quelque chose de Dieu, sois attentif. Et brise tes raisonnements. Pour ne pas marcher selon ce que tu vois, mais marcher selon ce que Dieu te dit. Même si ça a l'air d'être une folie, Fais ton pas de foi et Dieu fera le reste.
On va peut-être s'arrêter là pour ce matin.
On va seulement afficher Romains 12, terminer par ça, dont j'ai parlé tout à l'heure.
Romains 12, verset 1. On va juste prendre peut-être le 2.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Laissez-vous transformer. Il y a une autre version qui dit « laissez-vous transformer ». Ici, on dit « soyez transformés ». Une autre version dit « laissez-vous transformer ». Ne résistez pas à la transformation que Dieu va opérer dans vos vies. Laissez-vous transformer. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est né de nouveau. Et naître de nouveau, c'est changer sa manière de penser aussi. Naissons de nouveau. Ne soyons pas des cartésiens. Ne soyons pas comme Thomas, nous voulons voir d'abord l'île avant de croire qu'on va à Rouen. Laissons-nous transformer par le Seigneur.